Vos finances en temps de pandémie, midi 4 minutes, bon samedi avec la grisaille dans plusieurs secteurs au Québec, pas très chaud là, dans le Grand Montréal, on va frôler les 16-17 degrés si tout va bien, c'est assez frais, mais comme le disait Paul, à partir de demain et jusqu'au milieu et même jusqu'à la fin de la semaine prochaine, là, on aura une montée des températures, un crescendo météorologique, mesdames, messieurs, avec du soleil. Très belle semaine qui s'en vient. Alors, c'est comme une petite pause de soleil et de chaleur aujourd'hui. Bienvenue à l'émission. Des invités aujourd'hui, Marc-André Loisel, PDG de Ali Excavation. Son entreprise va faire un investissement majeur malgré la pandémie. Et je suis toujours en très bonne compagnie. François Gagnon, chroniqueur économique. Salut, François.
Bonjour.
Vêtu de ton polo bleu, mon polo préféré de toi.
Ah oh, oui.
Oui. Vraiment, ça te va très bien. Et donc,
beau,
toujours.
Beau, bon, pas cher.
Oui, c'est ça. Toujours commencer avec un compliment. T'allais dire, il y a des nouvelles.
Ben, il y en a eu plein, des nouvelles. Ben
oui, tout à fait.
Semaine,
alors, par exemple, l'endettement des ménages qui s'est accentué, on pouvait s'y attendre au premier trimestre, François.
Et c'est un peu compréhensible, et particulièrement pour les ménages à faible revenu. Alors, on comprendra que lorsqu'il n'y a plus de revenus du tout, là, comme ça a été le cas pendant 3 mois, là, même si certains des confinements, là, que tu continues à payer ton hypothèque, tu continues malgré les programmes d'aide qu'il y avait. Il y en a plusieurs qui ont été obligés de continuer de payer leur hypothèque, payer leur automobile, de mettre de la bouffe sur la table pour les enfants. Alors donc, souvent de fois, ils ont dû piger dans leur marge de crédit davantage pour être capables de s'alimenter et de payer tous les frais fixes.
Oui.
Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve à 177% de ratio d'endettement. Donc, pour chaque dollar disponible, tu as une pièce 77 de dette. C'est énorme.
Oui, et il y en a qui ont fait le choix de continuer de payer leur hypothèque, même s'ils pouvaient, par exemple, la reporter, en raison des fameux intérêts.
Ah oui.
Parce que ça revient quand même là, à des intérêts à payer plus tard.
Les intérêts vont redevenir du capital. Alors donc, tu vas être obligé de le rembourser à la fin, là, de toute façon.
On a, cette semaine, bien sûr, entamé la dernière séquence pour la prestation canadienne d'urgence pour ceux qui ont commencé dès le début, François.
Oui, le 15 mars au dernier. Donc, la dernière séquence, c'est cette semaine qu'on devait la demander. Et c'est disponible jusqu'au 4 juillet. C'est après. Qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un projet de loi qui a été déposé, ce qu'on appelle le C-17 à Ottawa. C-17 permettait donc une prolongation de la PCU, mais à certaines conditions qui ressemblent énormément à ce que l'on voit à l'assurance-emploi, c'est-à-dire que la personne qui refuserait de retourner au travail, par exemple, perdrait son droit de PCU.
Oui.
OK? Et pour les fraudeurs, parce qu'en même temps, il faut commencer à cibler les fraudeurs parce qu'il y en a eu pas mal de fraudes. Ça, il ne faut quand même pas se jouer à l'autruche puis se mettre la tête dans le sable. Il y avait une amende de 5 000 $ plus le remboursement du double minimum. Alors, si vous avez eu, par exemple, 8 000 $ de PCU obtenu frauduleusement, ben c'est 16 000 à rembourser, 5 000 $ de plus d'amende et au surplus, peut-être une peine de prison également. Donc, c'est des peines qui sont relativement sévères. Ça, c'est pour inciter les gens à rembourser s'ils croient qu'ils ont eu ou obtenu de façon frauduleuse la PCU. Faites attention, ce n'est pas les erreurs de bonne foi là, que l'on vise. C'est sûr et certain qu'il y en aura au début, avec toute la confusion qui avait été portée contre la sur la PCU, que ce soit par la PCU de l'ARC ou les gens qui ont été envoyés sur la PCU par l'assurance-emploi. Parfois, au début, on a eu de l'argent en double, là, et il y en a une portion qui doit être remboursée. Et déjà, les gens qui en ont reçu en double, la majorité, en tout cas une grande partie, ont commencé à rembourser ces sommes-là. C'est pas ceux-là qu'on va viser. Là.
C'est ça. Si t'es pas malicieux, là, il n'y a pas de problème en général au Canada.
Sauf qu'on a pris du temps avant de se réveiller un peu au gouvernement puis de dire, oui, il y a des fraudeurs. Là. On l'a vu, entre autres, avec des gens qui, en allant fouiller dans mon dossier, se sont aperçus qu'ils avaient eu de la PCU. Alors, le truc, c'était, on réussissait à rentrer dans le dossier de la personne et on changeait tout simplement le compte bancaire.
Ouais.
Alors, donc, c'était un compte bancaire, puis Pourtant, les banques aussi ont leur rôle à jouer là-dedans. S'il y a eu un nombre accru de comptes bancaires, ben là, ça aurait dû lever le drapeau un peu.
Hein? Oui, tout à fait.
Bon, alors ça, il y a un côté bancaire là-dedans et il y a le côté du gouvernement qui court après ces fraudeurs-là. Ça, c'est j'ai entendu cette semaine, puis je trouvais l'analogie très bonne, c'est de courir après un voleur qui vient de se faire un dépanneur et attendre 2 heures après que le vol soit commis pour être capable d'aller le chercher. Alors ça va être difficile après à rattraper ces fraudeurs-là.
Clairement.
Bon. Il y a le projet de loi 61 également qui a avorté cette semaine, alors reporté
en septembre.
Mais là, il y a bien des choses là-dedans. Là.
Beaucoup de choses, en fait, ouais, c'est très complexe.
Extrêmement importante, là, ce sont les loyers commerciaux.
Oui. On va pouvoir se faire évincer, là.
Ben oui.
Parce que ça n'a pas été adopté.
Oui. Dans la loi, c'était prévu qu'il n'y avait pas question d'évincer un locataire commercial, particulièrement dans les centres commerciaux, là, parce qu'il était incapable de payer son loyer à cause de la COVID-19. Ça, c'est très, 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 très malheureux. Il y a également la construction commerciale là-dedans. Quand on parle de construction, souvent de fois, on pense à la commission Charbonneau. Ça fait peur à bien des gens, qu'on revienne en arrière avec des projets, avec des BAP raccourcis, puis des délais raccourcis.
Des dépassements de coûts jusqu'à 30 %
etc. Là. Alors ça aussi, ça fait peur. Puis des deux côtés, il aurait fallu qu'on mette un peu de l'eau dans son vin pour être capable d'adopter ce projet de loi-là. Bon, ça s'est pas fait. Je suis pas un politicien de nature, là, mais on est capable de regarder les faits au point de vue économique. Là, il va falloir que les politiciens commencent... Bien, ils auraient dû continuer à moins faire de politique puis être capable de discuter davantage pour être capable de passer ce genre de projet de loi-là, parce que là, ils vont en avoir besoin rapidement, parce que c'est un projet de relance économique. Rappelons-nous, c'est ce que je disais à Paul ce matin à 9h, qu'on l'ait aimé ou pas, là, ça n'a aucun rapport. Mais qu'est-ce qui a sauvé le Québec en 2008, pendant la crise économique? Ce sont les projets d'infrastructure. On était dans une urgence à cette époque-là parce qu'il y avait eu 2 viaducs qui étaient tombés. Rappelons-nous, entre autres, le viaduc de la Concorde à Laval. Ouais. Et on a décidé de faire des inspections complètes partout à travers la province pour savoir qu'on avait un réseau autoroutier qui était en décrépitude. Donc, on a lancé les travaux. Et c'est ça qui a permis au Québec de rester à flot alors que toute l'Amérique du Nord est en pleine déconfiture. Alors donc, oui, ça, c'est le genre de choses qu'il faudra regarder davantage.
Mais sans le projet de loi, est-ce que tu peux quand même accélérer les projets d'infrastructure et tu y vas à la pièce, contrat octroyé par contrat octroyé, voici les conditions de notre gouvernement, nous souhaitons un délai raisonnable de 2 ans, alors que d'ordinaire, on voit pour ce genre de projet, je ne sais pas moi, 3, 4, 5 ans, on veut que vous le fassiez rapidement, sinon il y aura des conséquences, et on va payer en conséquence, en fonction de ces délais-là qui sont améliorés. Y a-tu moyen, c'est sûr que c'est plus long, mais on a-tu moyen de procéder sans la loi 61?
Bien là, il faut procéder de la même façon que l'on procédait auparavant. Donc, ça va être plus long.
Beaucoup de bureaucratie, en fait.
Bon, oui, bien, c'est ça. Ce qu'on voulait faire, c'est ramener ça le plus rapidement possible, tu sais, sur une période au lieu de 2 ans, là, des fois, que ça prenait là, pour être capable de mettre un projet en place. Entre le début du projet et la première pelletée de terre, des fois, c'est entre 1 an et 2 ans. Alors, donc, tout ce qui est dans le PTI, là, donc dans le programme d'infrastructure, ce qu'on voulait faire, c'est de ramener les délais le plus bas possible, donc pour les évictions, par exemple, ou encore en ce qui concerne les BAP.
Oui.
Quand c'est obligé de passer au BAP, des fois, ça peut être long. De permettre, donc, les contrats de gré à gré. Mais là, on a dit, on va délester ça, on va laisser ça aux municipalités, on va permettre aux municipalités de faire des contrats de gré à gré. Alors, donc, puis c'est ce qui fait peur, d'ailleurs, aux partis d'opposition, les contrats de gré à gré, parce que est-ce que ça va ouvrir la porte à ce que la commission Charbonneau nous a mis en plein visage à l'époque et revenir en arrière, c'est ce que l'on craint du côté des politiciens qui étaient opposés au projet.
Alors, peut-être un manque de communication de la part du gouvernement, trop de pouvoir dès le départ, Mais avec déjà un début de débat démocratique, il y avait de l'eau dans le vin du gouvernement. Là, on a délesté des choses.
Ouais, il y a eu surtout de l'eau dans le gaz, pas dans le vin.
Mais là, tu sais, tu dis des projets qui prennent du temps à se mettre en branle. Tu parles de 2 ans, c'est déjà trop long. Mais je peux te donner des exemples où c'est beaucoup plus que ça. Ça se compte en décennies. Là. Tu penses au prolongement de l'autoroute 30, par exemple. Combien de temps ça a pris? Le prolongement de la ligne bleue, on avait peut-être enfin un espoir après là, 40 ans.
Oui, mais là, il a dit c'est non.
Non, on oublie ça, là. Mais non, c'est ça. Alors, nouvelle qui, en fait, un projet de loi qui sera reporté pour le débat à l'automne prochain. Les centres commerciaux vont rouvrir dans le Grand Montréal et à Joliette à partir de vendredi. Ça, c'est une très bonne chose pour aller magasiner. Pas encore, toutefois, de port de masque obligatoire. Quoi qu'on a plus d'une vingtaine d'experts, de médecins, des gens qui se sont illustrés pendant la pandémie sur les ondes de la télé et de la radio. Je pense à Dr Quash, je pense également aux autres, qui disent, là, le port du masque, c'est un frein à la propagation. Et dans les lieux publics, dans les transports en commun, ce serait bien de le rendre obligatoire enfin. Il y a Air Transat qui nous dit « Si tout va bien, François, le 23 juillet, on va recommencer des liaisons à l'international. »
Mais à condition que les frontières soient ouvertes.
C'est ça, si les frontières sont ouvertes.
Il y a des rumeurs qui circulent. Ben là, il parle du 23 juillet, là,
oui.
Où on prolongerait la fermeture de la frontière américaine jusqu'au 21. Et là, il y a les destinations sud qui seraient ouvertes également, mais là, il va falloir faire attention aussi. Qu'est-ce qui arrive avec le Mexique là, à l'heure actuelle ou encore en République dominicaine? C'est loin d'être réglé, l'histoire de la pandémie là-bas non plus. Là. En Europe, alors donc, d'ici un mois et demi, ça va certainement continuer de s'améliorer, du moins on le souhaite. Mais tu as Air Canada qui n'a même pas lancé de date encore une fois, pour une reprise de ses activités, même Colin Robinescu qui implorait le gouvernement cette semaine de leur permettre de recommencer à voler le plus rapidement possible, alors que Transat disait, ben nous, le 23 juillet, on reprend progressivement avec 13 destinations européennes et 5 dans le sud. Alors, on verra qu'est-ce qui va se passer. Exactement.
On va prendre la température également dans les aéroports.
Oui, ça va devenir obligatoire.
Et l'application COVID, finalement, là, ne sera pas adopté par le gouvernement du Canada, application de traçage là, sur vos téléphones intelligents. Donc, les restos lundi à l'extérieur du Grand Montréal et dans le Grand Montréal à partir du 22 juin. Mmh. Et dernière nouvelle, je l'étudie, 750 millions pour le tourisme.
Oui.
Important quand même.
Tout à fait.
Mais ce ne sera pas assez pour sauver tout le monde encore là.
Non, non. Et c'est le tourisme, la restauration, l'hôtellerie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de besoins. Et d'après moi, c'est un premier plan dans la relance économique dans le secteur touristique. Il y aura d'autres choses qui vont se rajouter. Le premier ministre a dit, on va être là pour chacune des étapes de la reprise économique. Et jusqu'à maintenant, il tient une parole.
Il va falloir qu'on se parle de la subvention salariale. On a eu des chiffres cette semaine, là, 11 milliards jusqu'à maintenant versés aux entreprises. Il y a des gens qui disent que, finalement, le programme pourrait fonctionner pas mal mieux, là.
Oui, mais c'est déserté par les employeurs. On l'a vu, là. Et dans l'article de cette semaine, dans la presse et sur Radio-Canada également, démontre que les employeurs n'ont pas été... très proactif pour se servir de cet outil-là. Il faut dire que pour beaucoup, le fait de se servir de l'outil qui existait de la SSU, alors que ton entreprise est complètement fermée, et n'envoyait pas nécessairement l'utilité. Pour beaucoup d'entre elles, c'était plus utile de laisser les employés sur la PCU que de la demander la SSU, parce que c'était moins payant pour leurs employés.
Penses-tu que le programme de la SSU sera davantage utilisé après la PCU?
Ben,
si on prolonge, évidemment, au-delà de septembre.
Ben, c'est ça. Mais là, pour la prolongation, tu vois, pour les 3 derniers mois, là, pour juillet ou septembre, on ne sait même pas comment ça marche. J'ai encore vérifié. Il était supposé d'être élargi pour ramener et d'aider le maximum d'entreprises possibles de pouvoir en bénéficier. Et finalement, ben, on ne sait pas. On a encore des critères des 3 premiers mois, c'est-à-dire le premier mois, moins 15, une baisse de 15 %, les deux autres, 30 %. Puis pour les 3 suivants, on ne sait même pas. Alors donc, on n'en sait pas grand-chose pour les trois derniers mois. Est-ce qu'on pourrait aller au-delà? Le gouvernement fédéral semble favoriser davantage la SSU que la PCU. La preuve, c'est que oui, il y aura prolongation de la PCU pour ceux et celles qui n'ont pas le droit à l'assurance-emploi. Alors donc, il faut qu'il y ait de l'argent dans leur poche, mais la condition sera la même que l'assurance-emploi. Tu devras te chercher un job. Et si ton employeur te rappelle que tu dis non parce que la PCU est plus payante que l'emploi sur lequel que tu recommencerais à travailler, bien malheureusement, tu vas perdre ta PCU également. Et tu n'auras pas le droit plus à l'assurance-emploi. Alors donc, ça va être très restrictif. C'est ça qu'on veut faire avec la PCU, la prolonger, mais à grandes conditions. Et c'est justement pour favoriser les emplois et favoriser aussi les employeurs à aller sur la SSU. Mais comme une fois, encore une fois, je le dis, malheureusement, on ne connaît pas les nouvelles conditions pour la SSU.
Parfait. Merci, François. Midi 20. On va revenir dans un instant. Prenons aussi vos appels. Hein. Pendant la pause, je prends vos appels parce qu'on souhaite vous parler. C'est une tribune téléphonique, comme ça l'a été depuis... la notion du temps, là, j'ai un peu perdu, mais je pense depuis début mars ou mi-mars? Mi-mars, ouais, début de la crise. Donc, mi-mars.
On a commencé la fin de semaine. Moi, le 13, j'ai travaillé. Là, c'était un vendredi. Rappelle-toi, c'était un vendredi 13. Et on a commencé cette fin de semaine-là.
OK, alors...
14-15, puis le 16, on fermait complètement le Québec.
Alors, depuis cette fin de semaine-là de mars, où nous avons mis le Québec en pause, nous sommes là, on vous écoute, on répond à vos questions sur les finances. Vos finances personnelles, ça peut être également la relance économique, ça peut être un programme gouvernemental, comment ça marche, à quoi j'ai droit, qu'est-ce qui va se passer tantôt, des conseils financiers, 514-790-9850, 1-866-790-9850.